Allez, il nous faut reprendre. Merci d'être avec nous pour cette dernière ligne droite, troisième table ronde de la journée, dédiée aux impacts de la fibromyalgie au travail et sa prise en charge administrative. Et pour échanger avec nous sur ces points, je vous demande d'accueillir sur scène nos invités, Déborah Azoulay, Nadine Randon et Ghislaine Baron. Merci de les applaudir chaleureusement. Regardez, elles font leur entrée de star, comme à Bercy. Déborah Azoulay, Nadine Randon, Ghislaine Baron, dans cette troisième table ronde, prenez place, prenez un micro et je vais faire un petit tour de table des présentations si vous le voulez bien. On ne présente plus Nadine Randon et Ghislaine Baron, respectivement présidente et vice-présidente de l'association Fibromyalgie SOS. Et nous a rejoint le docteur Déborah Azoulay, qui est médecin du travail à la ville de Paris depuis peu. Et votre thèse portait justement sur l'enquête fibromyalgie au travail dont nous avons longuement parlé tout au long de cette journée. Alors on va commencer avec vous, Déborah Azoulay, n'oubliez pas, petite question dans la salle ensuite. Faites circuler vos questions papier, ce sera Claudia, ici même, voilà, qui les réceptionnera, qui nous les transmettra. Déborah Azoulay, quelles sont les missions principales du médecin du travail? Faisons un peu de pédagogie là-dessus.
Alors, le médecin du travail est un acteur central de la prévention des risques professionnels en milieu de travail. Il anime et coordonne une équipe pluridisciplinaire constituée de professionnels médicaux et également non médicaux. Il est soumis au secret professionnel comme tous les médecins et exerce en toute indépendance. Il faut savoir qu'il a un rôle de prévention uniquement qui consiste à éviter l'altération de la santé des salariés du fait du travail, bien sûr. Donc, il a une activité de consultation ainsi qu'une activité de tiers-temps. Donc, l'activité de consultation, il y a plusieurs types de consultations qui sont proposées. Nous avons les visites de pré-reprise, les visites de reprise et les visites à la demande du salarié, de l'employeur ou du médecin du travail. L'activité de tiers-temps, le médecin du travail se rend en entreprise, réalise ou met à jour les fiches entreprises, fait ce qu'on appelle les études de poste et de conditions de travail et assiste à certaines instances, notamment le CHSCT, Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail. Voilà.
Alors, la nouvelle loi de travail, elle a changé pas mal de choses. Hein. Ça vous met du pain sur la planche, si j'ose dire, notamment concernant la visite d'embauche et la redéfinition des postes à risque. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le sujet, sur ces deux sujets?
Alors, tout à fait. Depuis le 1er avril 2017, il y a pas mal de choses qui ont changé, notamment sur la visite d'embauche. Donc, selon les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés, la visite d'embauche est remplacée soit par une visite d'information et de prévention faite par l'infirmière ou un autre membre de l'équipe pluridisciplinaire, sur prérogative du médecin du travail, bien sûr. Cette visite a lieu dans les 3 mois suivant l'embauche, en fonction des risques auxquels sont exposés les salariés, et donne lieu à une attestation de suivi. Dans d'autres cas, si le salarié est exposé à un risque particulier, la visite d'embauche est remplacée par ce qu'on appelle un examen médical d'aptitude, cette fois-ci réalisé par le médecin du travail. Donc avant l'embauche, c'est-à-dire avant la prise de poste, pardon, et donne lieu, pardon, à un avis d'aptitude, là, pour le coup. Voilà. Okay. Ensuite, concernant les risques, oui, il y a une redéfinition des postes à risque et qui nécessite une surveillance individuelle renforcée, notamment pour les travailleurs qui sont amenés à monter et démonter des échafaudages qui sont passés en surveillance individuelle renforcée, ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne législation. Voilà.
Alors, que faire si l'employeur n'applique pas justement les directives du médecin du travail? Là encore, j'imagine que la loi travail a changé pas mal de choses. Quels sont les recours?
Alors, le médecin du travail, il faut savoir qu'il émet des préconisations, donc c'est les mesures d'aptitude, d'aménagement, pardon, des postes de travail, justifiées par des problématiques de santé physique ou mentale ou du fait de problématiques liées à l'âge. Donc ces préconisations sont faites par écrit par le médecin du travail, après échange avec le salarié et l'employeur. si aucune mesure d'aménagement de poste n'est possible sur le travail, à ce moment-là, le médecin du travail déclare une inaptitude. Voilà. Il faut savoir aussi qu'avec la nouvelle loi, le médecin du travail peut proposer l'appui de l'équipe pluridisciplinaire pour mettre en place ces mesures d'aménagement de poste. L'employeur est tenu de prendre en considération les préconisations du médecin du travail, mais il peut aussi le refuser. Et à ce moment-là, ce refus doit être motivé par écrit. Et le salarié ainsi que le médecin du travail doivent être informés de ce refus. En cas de contestation, depuis le 1er janvier 2017, ça a changé aussi. Donc le salarié ou l'employeur qui conteste l'avis du médecin du travail peut contester donc dans les 15 jours suivant l'émission de l'avis du médecin du travail auprès du conseil prud'homal. Le conseil prud'homal va désigner un médecin expert qui statuera sur la situation. Voilà. Ce médecin expert peut être le médecin inspecteur du travail ou un autre médecin d'une autre qualification.
Ça, c'est les nouveautés. Voilà. Et c'est assez complexe. J'ai un début de migraine d'ailleurs. Ouais. Que faire si au sein de l'entreprise, docteur Azoulay, on n'a pas accès à la médecine du travail ?
Alors, normalement, tous les employeurs, c'est inscrit dans le Code du travail, doivent souscrire à un service de santé au travail ou organiser un service de santé au travail afin de préserver et d'éviter l'altération de la santé des salariés du fait du travail. Et également, il y a certaines visites qui sont obligatoires, qui doivent être demandées par l'employeur. Est mise en place. Donc, normalement, tous les salariés doivent avoir accès à un service de médecine du travail. Si ce n'est pas le cas, alors peut-être qu'il y a un manque d'information. Donc, le salarié peut se renseigner auprès de son employeur et demander une visite au médecin du travail. Et si l'employeur refuse, à ce moment-là, je vous conseillerais d'aller voir les représentants syndicaux, s'il y en a dans l'établissement, ou d'aller demander avis. Voilà, les délégués du personnel, ou demander avis à l'inspecteur du travail. Voilà.
Dans toutes les tailles d'entreprise, il y a forcément.
Systématiquement. Soit c'est un service autonome dans les grandes entreprises de plus de 200 salariés, soit c'est un service inter-entreprise pour les petites entreprises qui souscrivent à ce service.
Alors je rappelle, je le disais tout à l'heure en vous présentant, que vous avez participé à l'élaboration du questionnaire de l'enquête sur la fibromyalgie et travail, un sujet au cœur de votre thèse. Est-ce qu'il y a une position de la médecine du travail sur la fibromyalgie ?
Alors, pas vraiment, et je dois dire que les médecins du travail connaissent mal cette pathologie. C'est vrai que l'étude fibromyalgie et travail auquel j'ai participé a permis de mettre en lumière un certain nombre de points, notamment le fait qu'il y avait une importance du contexte professionnel, socio-professionnel, sur le contexte clinique, dans le maintien au travail des personnes souffrant de fibromyalgie, et qu'un certain nombre de facteurs ont été associés aux arrêts de travail chez ces professionnels souffrant de fibromyalgie. Donc l'étude a apporté certaines pistes de réflexion sur le suivi en santé au travail des professionnels souffrant de fibromyalgie. Il est nécessaire, je pense, de favoriser une approche précoce et individuelle en santé au travail avec la mise en place d'un suivi rapproché et régulier de ces salariés. Voilà. Mais de façon générale, il est quand même très difficile de préconiser une généralisation des conduites. Je pense que la prise en charge doit rester individuelle et tenir compte de l'évaluation des risques sur le poste de travail et de l'état de santé du salarié au moment où il se rend à la consultation avec son médecin du travail.
Voilà pour ce rapide tour d'horizon, avant d'aborder quelques petites questions plus précises, mais j'aimerais quand même prendre la température dans la salle. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des questions sur ces